Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier mon directeur, M. Edouard Arnoldi, aussi Mme Jessie Martin, aussi Le Frénois et également le Pôle Image. Donc je commence. Après avoir reçu un Oscar en 1983 pour son film d'animation Tango, le cinéaste d'origine polonaise Zbigniew Rybczynski, que l'on surnommera ici plus volontiers Zbig, s'installe près de New York, où il fonde en 1985 son propre studio. C'est au cours de cette période de transition qu'il passe du support argentique au support vidéographique et qu'il réalise en 1987 une vidéo intitulée Steps. Donc Steps, c'est le titre de l'œuvre, mais c'est également le titre du projet à l'intérieur de l'œuvre. Et ce projet se présente dans la diégèse donc comme la visite guidée d'une scène mémorable de l'histoire du cinéma, à savoir la fusillade des escaliers d'Odessa, extraite du film Le cuirassé Potemkin, réalisé par Eisenstein en 1925. Donc on a donc un groupe de touristes américains sélectionnés pour participer à une expérience décrite comme une collaboration entre l'URSS et les États-Unis. Le chef de projet est russe et le studio américain. Et le procédé à l'origine de cette performance est introduit sur un mode assez spectaculaire dès les premières minutes et il s'agit de l'incrustation vidéo. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bon, voici les touristes et le chef de projet. Et voici le prodige de l'incrustation. Donc, on vient de le voir, les touristes vont être directement incrustés dans la scène et pourront ainsi déambuler à l'intérieur d'un monument du 7e art. L'entrecroisement film et vidéo est donc posé, diégétiquement comme formellement, comme la nouveauté du projet. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ce partage entre deux régimes d'images, entre film et vidéo, va pouvoir nous dire des rapports entre animation et cinéma en prise de vue réelle? Alors en repartant de certaines théories de Eisenstein et aussi de Walter Benjamin, il s'agira de déplacer un concept clé qui est le concept de conflit pour l'inscrire au cœur d'une réflexion sur les possibilités théoriques d'un montage hybride. Et au terme de ce parcours pourra se dessiner, ou se dessinera, j'espère, une définition possible de l'animation saisie dans ses rapports avec le cinéma dit naturel. Donc je commence le premier temps de ma réflexion. Donc le conflit anachronique en repartant de Sergei Eisenstein. Alors si la scène des escaliers d'Odessa est signifiante pour la place qu'elle occupe dans l'histoire du cinéma et pour l'idéologie qu'elle véhicule, elle l'est sans doute tout autant pour la théorie qui en règle l'organisation. En effet, Eisenstein fonde la dynamique de cette scène sur ce qu'il appelle le conflit. Le conflit qu'il définit lui-même comme le principe fondamental, le plus essentiel de l'existence, de toute œuvre d'art et de tout genre artistique. Alors d'une grande diversité, le conflit au cinéma peut s'appliquer aux lignes de force à l'intérieur du cadre. C'est par exemple le conflit graphique, où on voit que les lignes des marches s'opposent à la diagonale du corps de l'enfant. On a également les conflits qui s'appliquent au niveau dans la profondeur de champ. C'est ce que Eisenstein appelle le conflit des plans. On a le premier plan qui s'oppose à l'arrière-plan, les soldats qui s'opposent à la mer. On aura un conflit qui s'applique à la répartition de l'ombre et de la lumière, ce sera un conflit d'éclairage. On aura un conflit de volume, on pourra avoir aussi un conflit de texture, un conflit d'échelle de plan, un conflit de durée. En tout cas, on en aura beaucoup. Donc, je bois deux minutes. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'on peut avoir des conflits internes, comme on vient de voir, un conflit interne au plan, mais également des conflits entre des plans successifs. Donc par exemple ici, on a le plan 1 qui s'oppose au plan B, qui lui-même s'oppose au plan... Le plan 1 qui s'oppose au plan 2, qui lui-même s'oppose au plan 3, etc. Toujours selon le même principe de la ligne de force, de la diagonale qui s'oppose de manière successive. Et donc dans ce dernier cas, le plan entre en conflit avec celui qui lui succède et imprime dans la mémoire du spectateur, dans son esprit, ce que Eisenstein appelle un sentiment de mouvement. Et ce sentiment de mouvement, ce mouvement tout psychologique donc, est au principe de ce que le cinéaste appelle une dynamisation, soit émotionnelle, soit intellectuelle, en fonction de l'agencement qui est élaboré. Et donc la réaction psychologique du spectateur dans cette théorie est supposément calculable. Et comme l'écrit François Albera, le centre de gravité de la démarche eisensteinienne, c'est bien évidemment le spectateur. C'est pourquoi cette scène des escaliers a fait l'objet d'une préparation minutieuse. Comme à l'accoutumée, le cinéaste a dessiné chaque plan afin de pouvoir appliquer sur le spectateur cette dialectique du choc. Et donc on pourrait dire que le cinéma est ainsi expérimenté dans son efficience possible. Eisenstein oriente d'ailleurs prospectivement dans le futur ses recherches vers la conception d'un film, c'est important, qui serait purement intellectuel et qui permettrait des formes directes de pensée, sans aucune transition, sans aucune paraphrase, et qui pourrait aboutir à un film qui serait comme une synthèse entre l'art et la science. Et la question que je me pose, c'est que devient ce calcul scientifique, ce calcul minutieux, dans le projet STEPS ? Donc pour le comprendre, je vais déjà dire quelques mots sur l'incrustation vidéo, de manière assez rapide. Donc ce procédé technique suppose toujours qu'une image de base, un fond, que sur une image de base vienne s'incruster une image seconde, qu'on peut considérer comme une figure, donc une figure vient de s'incruster sur un fond. Et par conséquent, dans cette définition minimale, l'incrustation suppose qu'une image de base soit obstruée. Et évidemment, cette obstruction désamorce ici tous les effets prévus, calculés par Eisenstein. Mais surtout, Zbig, Rybczynski, ne conserve pas l'ordre de succession des plans. Donc quoi qu'il en soit, le calcul des réactions psychologiques sera de toute façon ici invalidé. Mais malgré ces modifications massives, on peut néanmoins relever une forme de conflit dans le prolongement de ceux d'Eisenstein, qui serait rendu exclusivement visible par le choc de l'incrustation vidéo. Et ce conflit, c'est le conflit de l'anachronisme. Parce qu'en effet, l'incrustation de touristes des années 80 dans une scène qui relate des événements de 1905, mais qui est tournée en 1925, va décliner différents registres d'opposition, tous fondés sur un décalage temporel. Alors tout d'abord, il faut relever un type de conflit directement déterminé par l'évolution technologique et qui comprend trois sous-catégories. Donc, d'abord, le conflit de couleurs, le conflit sonore et le conflit de mouvement. Donc évidemment, les touristes sont en couleurs, ils parlent et parfois se déplacent à une vitesse fulgurante qui est le résultat d'une manipulation vidéo. Donc on a également une autre forme de conflit. La rencontre entre la population américaine et la population d'Odessa va évidemment créer des conflits de look, donc à relier à un choc culturel anachronique plus vaste. Et le conflit anachronique, justement, se manifeste avec d'autant plus de force que se produisent dans la vidéo, des coïncidences de parcours. Alors je vous montre ce que peut être une coïncidence de parcours. Donc première coïncidence. Puis ici, autre coïncidence. Donc je vais m'arrêter sur cette dernière. Alors évidemment, le touriste noir qui brandit son poste, son ghetto blaster, il entre en conflit dans le même plan. Je vous montre l'image, je la remontre. Il entre en conflit dans le même plan avec la mère éplorée qui soutient la dépouille de son enfant. On a les couleurs criardes des vêtements pop contre le noir et blanc du film argentique. On a l'objet brisé contre le fils mort. On a la parole contre les plaintes silencieuses, etc. Et les deux personnages sont évidemment associés puisque chacun a subi une perte provoquée par les tirs des soldats. D'un côté l'enfant, de l'autre le ghetto blaster. Alors, loin d'évacuer Eisenstein, cette figure reconduirait plutôt un cas qui a été théorisé et dont la fin du film La Grève contient un exemple célèbre, c'est le cas des associations psychologiques. Donc, je pense que c'est connu de beaucoup de monde, mais je rappelle que Eisenstein, à la fin de La Grève, son film, a entrecoupé la répression des grévistes de plans d'abattage de bêtes d'égorgement de bêtes à l'abattoir. Et pour provoquer un effet dynamique, une dynamisation, il y a dû avoir ce que Eisenstein appelle une unité de comportement. Donc par exemple, les grévistes sont tombés, la bête est tombée, les grévistes gisent, la bête gît. Donc voilà ce que Eisenstein appelle une unité de comportement. Et de cette unité de comportement va résulter ce que le cinéaste appelle une puissante intensification émotionnelle. Alors dans le cas de Steps, il faut nécessairement revoir cette conclusion et se demander qu'est-ce que l'association d'un ghetto blaster brisé et d'un enfant mort va pouvoir créer comme effet dynamique. Alors la première hypothèse, enfin en tout cas celle qui s'offre avec le plus d'évidence, ce serait de dire que cet agencement pourrait se ranger sous l'espèce d'un conflit d'ordre moral. Donc la déploration un peu grotesque d'un bien matériel, évidemment se heurtant à cette réclamation plus grave qui est celle de l'enfant mort. Et donc au terme de ce premier point, on pourrait dire que pour le spectateur de Steps, le choc anachronique va permettre de renouveler le regard porté sur le film d'Eisenstein. Donc là, j'entame le second mouvement de ma réflexion. Donc j'ai bien dit, je répète, un renouvellement du regard. Donc deuxième point, l'image dialectique, en repartant de Walter Benjamin. Donc on a vu que les images du cuirassé étaient remployées à l'intérieur d'un dispositif conflictuel que Rybczynski mettait au service d'un propos nettement critique. Donc l'idée d'un conflit moral pointe cette dimension critique sans détour. Le choc produit par les agencements de Zbig entre en correspondance avec un concept qui a été développé par Walter Benjamin, qui est celui d'image dialectique. La seule image, écrit le philosophe, qui soit authentiquement historique. Donc je vous donne la définition de l'image dialectique. On va la lire ensemble. Donc une image est ce en quoi l'autrefois rencontre le maintenant dans un éclair pour former une constellation. En d'autres termes, l'image est une dialectique à l'arrêt. Alors, cette idée de dialectique à l'arrêt trouve un équivalent graphique, une espèce d'équivalent graphique dans la coprésence anachronique mise en évidence par Steps. En effet, les Américains partagent le même espace que les Odécites, mais sont néanmoins désignés comme des intrus. Donc on l'a vu, les intrus, parce qu'ils parlent, ils sont en couleur et ils bougent aussi de manière un peu particulière. On pourrait dire donc que l'incrustation vidéo développe un rapport de contiguïté hétérogène. Et en reprenant les mots de Benjamin, on pourrait dire que le maintenant s'incruste directement dans l'autrefois, sans pour autant que les deux abolissent leur distinction réciproque. Et donc en ce sens, l'incrustation irait à l'encontre d'un usage des effets spéciaux transparents, d'un usage tout à fait réaliste. Donc la relation dialectique de Benjamin n'est pas le produit d'un déroulement, elle s'effectue en un éclair, c'est ce qu'il raconte, dans une seule image. Et donc je vais m'aider de la théorisation de Philippe Dubois. Et donc la distinction du théoricien Philippe Dubois, donc là je suis allé un petit peu trop vite, donc je reviens en arrière, la distinction du théoricien Philippe Dubois entre mixage d'images pour la vidéo et montage des plans pour le cinéma pourrait permettre de penser en termes esthétiques l'opposition entre cristallisation et déroulement, et donc l'opposition entre une dialectique à l'arrêt et une continuité temporelle. Donc je rappelle que la continuité temporelle, c'est le modèle historique contre lequel s'inscrit vigoureusement Benjamin. Mais ce qui fait la singularité des incrustations chez Zbig, au regard des propos de Benjamin, c'est que le maintenant et l'autrefois sont figurés par des personnages et que la rencontre, par conséquent, devient une rencontre incarnée. Le touriste noir rencontre effectivement la mère endeuillée, il a été incrusté dans la même image, selon une cohérence spatiale fondée sur l'échelle de plan, fondée sur l'inclinaison du corps et fondée sur l'orientation de la marche, la direction de la marche. Donc Eisenstein pourrait dire unité des comportements graphiques et dynamiques dans une même image, unité de comportement. Et ensuite, le regard du spectateur embrasse ces composantes hétérogènes pour établir lui-même la relation dialectique, à savoir la rencontre. Ou pour le formuler autrement, on pourrait dire que l'incrustation en tant que truc, en tant qu'effet spécial, permet des effets de rencontre. Et c'est donc ici le regard du spectateur qui va jouer une part active dans la lecture historique des images. Et à propos de l'incrustation, je retourne à ma citation, à propos de l'incrustation, Philippe Dubois écrit « Il y a bien toujours une dialectique de ce qui est devant, par exemple le corps, et de ce qui est derrière, le décor, du dessus et du dessous, mais c'est en tant, je souligne, c'est en tant qu'artifice de construction, la composition d'image, qui ne correspond à aucune réalité physique, qui n'existe pas en dehors de l'écran qui visualise l'effet. » Donc Rybczynski, en élaborant différentes compositions d'images, prévoit une rencontre qui, pour se produire actuellement, qui pour s'actualiser, a besoin d'un regard. La relation dialectique s'actualise donc grâce à l'écran dans le regard du spectateur. Il ne s'agit plus d'une rencontre théorique que l'historien prescrit dans sa, ou constate à l'intérieur pardon, de sa méthode de lecture. La rencontre de Steps est effective, elle est préparée par Zbig et elle est déterminée par un agencement technique, un artifice de construction, au sein duquel le regard du spectateur occupe une place indispensable. Et le point critique atteint par les images dialectiques, le point critique, c'est ce qu'on a identifié comme étant un conflit moral, ce point critique est donc le produit d'un exercice de regard. Et évidemment, sans ce regard, l'opposition entre les deux contradictions n'aboutirait à aucune synthèse. Il faut un regard pour qu'on puisse produire quelque chose d'autre, qu'on puisse produire une idée synthétique. Donc, en repartant d'Eisenstein et de Benjamin, il semble tout à fait possible de replacer l'incrustation anachronique à l'intérieur d'une théorie de la réception qui mobiliserait le spectateur comme une instance de synthèse, donc une instance de synthèse, pardon, c'est-à-dire le terme indispensable d'une relation dialectique fondée sur un regard actif. Donc voilà pour les développements théoriques. Maintenant, on peut se demander que devient l'animation là-dedans. Donc j'entame la troisième partie de ma réflexion, en espérant ne pas aller trop vite. C'est animation et vidéo, question posée au cinéma. Donc l'hybridité de Steps, donc le partage entre film et vidéo, conduit en premier lieu à interroger l'animation dans ses rapports avec le cinéma en prise de vue réelle. Les commentaires précédents, donc les commentaires à propos de Eisenstein et de Benjamin, ont permis de dessiner un horizon d'usage en lien des plus étroits avec une question déterminante. Cette question, c'est le remploi. En effet, à quelle fin l'animation pratique-t-elle le remploi d'un cinéma dit naturel ? Donc, tout d'abord, pour répondre à la question, il faut souligner, donc je souligne après d'autres, à la suite d'autres, évidemment à la suite de Hervé Joubert-Laurencin, à la suite de Dominique Willaoubi, de Pierre Hébert, de M. Tomasovitch ici présent. Donc il faut souligner les liens préhistoriques de l'animation avec les jeux optiques du XIXe siècle, donc le tomatrope, le zootrope, le praxinoscope, etc., qui effectuent en boucle des transformations à vue. Alors, c'est déjà un peu curieux de penser à Rybczynski dans cette lignée, mais si Rybczynski s'inscrit dans cette lignée, c'est sans doute en croisant la boucle des premiers temps, en croisant cette boucle avec la pratique du remploi. Parce que l'enjeu manifestement posé par Steps n'est plus de créer du mouvement à partir d'une succession d'images artificielles et d'attribuer de la sorte aux choses représentées un degré variable de vitalité. En effet, le mouvement est déjà là dans les images remployées. Alors pourquoi parler d'animation ? Mais on peut voir évidemment que l'extrait du cuirassé subit un traitement particulier grâce à la technologie vidéo qui pointe l'artificialité du travail de Zbig. Donc, par exemple, certains éléments ont été prélevés, désolidarisés du montage d'origine pour composer une nouvelle scène pour nous, spectateurs, et un nouvel espace pour les touristes. On a ici, par exemple, un nouvel agencement de trois images dans la profondeur dans une profondeur d'une image composite. Et donc ici, le geste créateur qui est mis en évidence, c'est bien évidemment celui du coupé-coller, donc une logique un peu informatique. On va prélever des éléments de la scène d'origine pour recomposer une totalité virtuelle. Il y a également la tentative de rendre leur autonomie à certains personnages, et ça passe par la mise en boucle d'un mouvement. Donc comment autonomiser un personnage ? En voici un exemple. Donc voici la boucle du bébé. Donc on a vu que le bébé était isolé et traité comme un automate. Donc la Seine est exploitée, selon le mot de Jean-Paul Fargier, est exploitée comme une banque de données afin de reconstruire un hors-champ imaginaire à l'événement. Donc par exemple, il y a deux moments qui entourent la descente des escaliers. Il y a un moment où on présente les personnages, donc voilà, le bébé en fait partie, le moment de présentation initiale, et ensuite, à la fin de la tuerie, on aura la séance photo des soldats, donc deux moments qui offrent un entour imaginaire, un hors-champ imaginaire à l'événement historique. Donc la scène d'Odessa devient chez Zbig, donc également, donc voilà, donc création d'un hors-champ imaginaire. Donc là, on a la séance photo des assassins. Et donc la scène des escaliers d'Odessa devient dans Steps. Au niveau intradiégétique, la boucle que l'on peut rejouer à satiété, donc suivant le mode de consommation des attractions foraines. Donc on peut visiter cette scène comme on visite le train fantôme ou bien une maison des horreurs, comme à la foire, quoi. Donc au niveau formel, cette scène devient une banque de données dédiée à la création, je viens de le dire, d'un entour imaginaire, selon le principe du compositing. Donc j'ai pas trop parlé du compositing, mais je pourrais vous donner la définition que propose Lev Manovitch. Donc Lev Manovitch dans le langage des nouveaux médias. Donc tel qu'employé dans le domaine des nouveaux médias, l'expression composition numérique, donc digital compositing, a une signification bien précise et clairement définie. Elle désigne le processus consistant à combiner un certain nombre de séquences d'images en mouvement et parfois de photos en une seule séquence à l'aide de logiciels de composition spéciaux. Donc voilà, donc c'est-à-dire reprendre différentes images pour en faire une représentation unifiée. Voilà ce qu'est le compositing. Et au niveau théorique, on l'a vu avec Eisenstein et Benjamin, ça devient une matière à réflexion qui permet de composer des agencements intellectuels. Donc en cela, le travail de Rybczynski présente une dimension réflexive qui éclaire les rapports entre animation et cinéma naturel. Parce que recomposer une nouvelle scène à partir d'éléments prélevés ou construire des agencements insolites grâce à l'incrustation, on pourrait dire compte parmi les possibles d'une pratique de l'image animée, une pratique de l'image animée qui serait consacrée à l'étude des images cinématographiques. Donc pour le dire en d'autres termes, l'animation comme discipline avec des guillemets scientifiques prend le cinéma pour objet d'étude. Voilà à peu près l'hypothèse. Or, il se trouve que cette hypothèse rencontre précisément une définition que Philippe Dubois a proposée de la vidéo. Je vous la donne. Et je la lis. Donc la vidéo n'est pas un objet, une chose en soi, un corps propre. Elle est un état expérimental, un état de l'image en général. La vidéo pense, donc il reprend cette phrase d'une proposition de Jean-Luc Godard, la vidéo pense ou permet de penser ce que les images sont ou font. Toutes les images, et en particulier les images du cinéma et les images de l'art. Et donc, dans sa définition même, par conséquent, on pourrait dire que la vidéo serait liée à la question du remploi, ce serait un regard sur des images préexistantes. Et en prenant soin de souligner l'étymologie du mot vidéo, donc vidéo je vois en latin évidemment, il n'est qu'un pas à franchir pour parler de la pratique vidéographique comme de l'exercice d'un regard actif, un commentaire pratiqué par l'image en mouvement à l'endroit d'autres images. Donc les images d'Eisenstein seraient ici une matière d'expérience, la matière des expériences vidéographiques, émotionnelles, intellectuelles de Rybczynski. Et ce cas de figure redouble sur un mode tautologique, une proposition du théoricien, donc je m'excuse de le citer en sa présence, une proposition du théoricien Dick Tomasovich qui dit ceci: toute entreprise animée soulève des questions relatives à son rapport au cinéma, historiquement et esthétiquement, bouscule le langage du cinéma et relie par la force des choses l'histoire du cinéma. Donc avec Steps, on pourrait dire qu'il y aurait donc un usage expérimental conscient de l'animation, un usage vidéographique qui soulèverait directement les questions latentes des rapports historiques et esthétiques entre animation et cinéma naturel, et cela en exploitant les possibilités dialectiques de composition hybride entre film et vidéo et entre emploi et remploi. Et bon, j'ouvre une parenthèse ici à propos de M. Tomasovich, on pourrait faire plus d'un lien avec le film Fast Film que M. Tomasovich a étudié en dégageant les questions que cette œuvre d'animation posée à l'histoire du cinéma. Donc Fast Film, c'est de Virgil Wiedrich, 2003. Mais évidemment, Steps, sans offrir les mêmes possibilités de connexion anachronique ni le même potentiel historiographique, Steps questionne l'idée d'une seconde vie du cinéma, l'idée d'un cinéma comme un matériau malléable dont le remploi permettrait d'écrire une histoire des images en mouvement par les seuls moyens, donc une histoire des images en mouvement par les seuls moyens audiovisuels. Donc j'en viens maintenant à mes quelques mots de conclusion. Je vais citer Serge Danet qui a écrit quelques lignes sur Steps. Donc Serge Janet dit « On voit bien que la magie aujourd'hui est dans l'art de se glisser furtivement hors de l'écran ou dans les images. Généalogie en acte, trop consciente peut-être, mais qui dit où on en est. » Donc cette idée de généalogie en acte, qu'on retrouve dans un texte de Jean-Paul Fargier sous le terme de darwinisme esthétique, désigne clairement la vidéo de Zbig, Steps, comme le lieu d'un passage, et évidemment du passage du cinéma à la vidéo. Donc on note que le titre, Steps, les marches, pose déjà le site d'un trajet. Ces marches à emprunter, où se rencontrent le maintenant et l'autrefois, mènent dialectiquement à une naissance. Parce que dans le film, à la fin, le bébé Orlando va renaître sous une forme vidéographique. Donc l'animation se trouve donc ici précisément à la jonction entre deux âges du cinéma, jonction entre deux âges séparés par l'avènement de la télévision et de la vidéo, donc ce fameux troisième âge théorisé par Serge Danet. Et sur un mode ludique quasiment pédagogique, Rybczynski introduit et décline le principe de l'incrustation comme une curiosité technologique, on se souvient du premier extrait, donc une espèce d'illusionnisme comme ça, donc d'abord une curiosité technologique, ensuite, un mode d'accès direct aux images de l'histoire du cinéma et surtout un outil théoriquement fécond de déconstruction et de reconstruction. J'espère ne pas être allé trop vite. J'en ai fini ici. Je vous remercie.